Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La France en finale de la Coupe du Monde de football, une victoire 2-0 face au Lion de l'Atlas ce mercredi soir. L'équipe marocaine qui a suscité l'admiration tout au long de ce mondial. Placé en détention administrative par les autorités israéliennes depuis mars dernier, Salah Hamouri est menacé d'être expulsé à tout moment de Jérusalem, sa ville natale. La ville d'Ivry, qui l'a fait citoyen d'honneur, demande qu'il ne soit pas expulsé. Vous entendrez le maire de la ville, Philippe Bouissou. Au Liban, la priorité ce n'est pas de savoir qui sera le prochain président, mais quel pays veulent les Libanais. C'est ce qu'a dit sur Radio Orient Olivier Cadic, vice-président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Nous l'écouterons. Gros plan sur la francophonie et sur les échanges qu'elle favorise. Nous écouterons Yannick Mainville, délégué du Canada à Nouveau-Brunswick, lors du sommet international de la francophonie en novembre dernier à Djerba en Tunisie. Les Bleus l'ont donc emporté ce mercredi soir face au Maroc. Les Bleus qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde dimanche prochain. Une victoire, 2-0 face à une équipe marocaine qui a suscité l'admiration tout au long de cette Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont écrit l'histoire du football marocain, du football arabe, du football africain. Le Maroc est la première équipe africaine et la première équipe arabe à avoir atteint ce niveau dans une Coupe du Monde de football. Après cette rencontre, la France, suite à sa victoire 2-0, rejoindra l'Argentine dimanche en finale. L'Argentine qui a battu la Croatie 3-0 mardi soir. Placé en détention administrative par les autorités israéliennes depuis mars dernier, Salah Hamouri est menacé d'être expulsé à tout moment de Jérusalem, sa ville natale. La ville d'Ivry, qui l'a fait citoyen d'honneur, demande que l'avocat franco-palestinien ne soit pas expulsé. Le maire de la ville, Philippe Bouissou.
Alors, on est même ville hôte de son comité de soutien et on est très fiers de l'aide. Salah Hamouri a été fait d'ailleurs il y a quelques semaines maintenant citoyen d'honneur de notre ville, hein, au même titre que Marwan Barghouti qui avait été fait citoyen d'honneur. On est très engagé sur la cause palestinienne et notre ligne politique, c'est vraiment deux peuples, deux États. Il faut un jour qu'il y ait un État palestinien pour que le peuple palestinien puisse disposer de son destin. Salah Hamouri a la double nationalité, il est franco-palestinien, et cette double nationalité compte pour quelque chose, et il est citoyen de Jérusalem, il a sa carte de résident de Jérusalem, et à ce titre, il est citoyen de Jérusalem. Et donc, son expulsion, alors déjà, sa détention administrative qui dure maintenant depuis plusieurs mois, qui a déclenché chez lui une grève de la faim, c'est une profonde injustice. Il n'y a aucune raison pour que cet avocat franco-palestinien soit en détention administrative aujourd'hui. C'est un abus de droit et c'est un acte inqualifiable de la part du gouvernement israélien. Et en plus, son expulsion, avec sans doute par la suite, sauf grand changement politique, une incapacité à retourner dans la ville où il est né, dans la ville où vit sa famille et ses parents. Il est privé d'ailleurs de cette possibilité d'entrée et de sortie d'Israël, puisque ses enfants et son épouse vivent d'ailleurs ici, à Ivry, en France, et il ne les a pas vus depuis de longs mois, parce qu'il sait que chaque fois qui va quitter Israël pour venir voir ses enfants, il ne pourra plus y re-rentrer et il sera bloqué à la frontière. Et là, son expulsion, c'est une double peine qui va lui être infligée après celle de l'incarcération administrative sans aucune justification, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement israélien. Salah Hamouri est tout sauf un terroriste, c'est quelqu'un qui se bat pour l'indépendance de son pays, c'est un avocat qui mène un combat politique et un combat pacifique, et le traitement dont il fait l'objet est vraiment intolérable, et on est très fiers d'être ville hôte de son comité de soutien et de l'avoir récemment promu citoyen d'honneur de notre ville. D'ailleurs, son portrait est toujours affiché sur les murs de l'hôtel de ville, et on le décrochera que quand il sera libéré. Mais malheureusement, cette libération va rimer avec expulsion et avec probablement une incapacité pour lui à retourner dans sa ville de naissance dont il a la nationalité.
Le maire PCF d'Ivry, Philippe Bouissou, au micro de Loïc Barrière. Au moins 4 personnes sont mortes, 43 autres secourues après un naufrage dans la Manche. Des candidats à l'exil qui tentaient de rejoindre les côtes britanniques. Des bateaux et des équipes de sauvetage de plusieurs villes du sud-est de l'Angleterre ont été mobilisés, ainsi que 2 hélicoptères britanniques. 3 militaires irakiens ont été tués, 3 blessés ce mercredi dans l'explosion d'une bombe. La déflagration a eu lieu au passage de leur véhicule de patrouille dans une zone agricole au nord de Bagdad. Au Liban, la priorité ce n'est pas de savoir qui sera le prochain président, mais quel pays veulent les Libanais. Des mots au micro de Radio Orient d'Olivier Cadic, vice-président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Il était l'invité de Pluriel. Extrait.
Vis-à-vis du Liban et du peuple libanais, le Sénat français a un groupe d'amitié qui est important. J'en profite pour penser à notre présidente du groupe d'amitié, sénatrice Lavarde, qui anime ce groupe d'amitié avec beaucoup de d'activités. Et donc en ce qui me concerne, ce sujet, c'est la première des choses, c'est penser à toutes les souffrances endurées par le peuple libanais. C'est quand on voit, quand on entend les témoignages des gens qui n'ont plus d'électricité, qui n'arrivent plus à avoir de médicaments. Je connais quelqu'un qui m'avait conduit au Liban, qui est décédé parce qu'il n'a pas pu avoir son traitement. Je pense à eux, je pense à toutes ces personnes-là. Maintenant, il n'y a pas de problème sans solution. Et je crois que la question à laquelle doivent répondre les Libanais, c'est quel Liban veulent les Libanais. La priorité, c'est pas de savoir qui va être le président de la République, c'est comment est-ce qu'ils veulent vivre ensemble. Quel va être le système qui va sortir de tout ce chaos. Et donc, pour ma part, moi, je me rendrai à Beyrouth le mois prochain. Mon objectif, c'est de les écouter. C'est quel Liban veulent-ils ? Parce qu'on voit bien que là, pour l'instant, le système est totalement bloqué et qu'il évolue dans une direction qui est un Liban qui risque de perdre une partie de sa communauté et qui ferait que le Liban ne serait plus le Liban qu'on a connu. Et donc, ça, on a besoin. Moi, j'ai besoin d'écouter les gens sur place pour voir comment ils analysent la situation maintenant, mais ce qu'ils vivent est... Et vraiment, c'est le chaos. Maintenant, on voit bien qu'ils arrivent aussi à trouver certaines solutions. Mais je ne pense pas que ce soit qu'on puisse retrouver le Liban tel qu'on l'a connu et tel qu'il nous a fait rêver, tel qu'on l'a aimé. Et donc maintenant, il faut se remonter, les manches et puis voir tout ce qu'on peut faire pour les aider.
L'une des solutions pour le Liban, c'est le respect de l'état de droit, l'aide aussi aux institutions, notamment l'armée.
C'est clair, mais depuis le début, hein, moi je me suis j'ai expliqué qu'on pouvait pas vivre avec 2 armées, hein, dans un pays. Donc il doit y avoir qu'une seule armée. Il doit y avoir un système qui repose effectivement sur l'état de droit, ça c'est ma conviction. C'est peut-être pas la conviction de la Chine, puisqu'on avait commencé avec eux. Moi je pense qu'effectivement ça passe par là, ça passe par la liberté d'expression, ça passe par la démocratie, ça passe par respecter des règles et donc lutter contre la corruption. Et voilà, donc on sait très bien que si on n'arrive pas à remettre de l'ordre, ce sera très très difficile, mais encore une fois, ce sont les Libanais qui ont leur destin entre les mains. Et ils doivent aussi analyser la situation, parce que si on en est là, il y a aussi un certain nombre de raisons. Donc il faut vraiment que chacun fasse le point et savoir dans quel monde veulent-ils vivre, dans quel Liban veulent-ils vivre. C'est eux qui peuvent le déterminer, personne d'autre à leur place. Et encore une fois, je vous dis, moi, j'ai pas de leçon à donner, uniquement à me mettre à disposition. Si je peux être utile, eh ben, je ferai tout ce que je peux pour les aider à avancer.
Olivier Cadic, vice-président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. Il était l'invité de Pluriel, émission disponible sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. Le verdict est tombé mardi soir dans le procès de l'attentat de Nice. Après 3 mois d'audience, tous les accusés sont déclarés coupables par la Cour d'assises spéciale de Paris. La Cour a prononcé des peines allant de 2 ans à 18 ans de prison à l'encontre des 8 accusés. Ils sont reconnus coupables d'infractions à la législation sur les armes et pour 3 d'entre eux d'associations de malfaiteurs terroristes. L'attaque au camion Bélier le 14 juillet 2016 a fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Malgré le froid, la consommation d'électricité a baissé de 9,7% la semaine dernière en France. Une baisse observée depuis plusieurs semaines selon le gestionnaire du réseau RTE. Des efforts qui s'inscrivent dans le cadre du plan de sobriété du gouvernement. Gros plan à présent sur la francophonie et sur les échanges qu'elle favorise. Le sommet de la francophonie a eu lieu le mois dernier à Djerba en Tunisie. Radio Orient était présente. Entretien avec Yannick Mainville, délégué du Canada Nouveau-Brunswick au sommet international de la francophonie.
On fait partie du Canada, donc on est le Canada Nouveau-Brunswick, donc on est voisin avec le Québec. On est à l'est, complètement à l'est du Canada. Le Nouveau-Brunswick est 1/3% francophone et bilingue. Ensuite, le 2/3 est anglophone. Ça fait plusieurs années, probablement depuis plus de 40 ans, que nous sommes membres de l'OIF. Nous avons même reçu le sommet de la francophonie en 1999, donc le 8e sommet. Et le premier village de la francophonie était chez nous. Ensuite, ça a découlé. Chez nous, dans l'Est du Canada, on mise certainement sur l'immigration, beaucoup sur les universités.
Et vous l'avez dit, hein, votre région, le Nouveau-Brunswick, qui a déjà accueilli un sommet international de la francophonie. Quel sens donnez-vous à la francophonie et à ses différents apports?
Beaucoup de sens. Le 8e sommet de la francophonie chez nous à Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 99, était axé sur la jeunesse. Donc, depuis plus de 20 ans, le Nouveau-Brunswick, comme province, comme État membre de l'OIF, collabore énormément au niveau des dossiers jeunesse, que ce soit avec les Jeux de la francophonie internationale, que ce soit dernièrement avec la création d'un réseau de jeunes francophones internationaux. Notre organisme jeunesse et la Société nationale de l'Acadie était à Paris aussi. Est également la Société nationale de l'Acadie qui représente le peuple acadien, donc le peuple francophone de l'Atlantique, et également membre des ONG de l'OIF, donc des organisations internationales non gouvernementales de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, il y a énormément d'apports que l'on porte, que ce soit la jeunesse, que ce soit l'importance de la francophonie, notre langue francophone que l'on a. Nous, les Acadiens, on est de descendance française, du Poitou et de la Bretagne. On a fait plusieurs missions autant sur Paris, autant dans plusieurs régions européennes, en France, entre autres. Ici, en Tunisie, par exemple, dans le pavillon, ça nous a permis de faire découvrir qui on est, parce que beaucoup nous associent pas au Canada. Plusieurs pensent qu'on est un nouveau pays, qui n'est pas le cas, on est une province canadienne, mais ça nous fait connaître. Également, le Nouveau-Brunswick, on a lancé, je parlais tantôt de la jeunesse, mais aussi de l'éducation. À Tunis, le 16, il y a eu des lancements d'une école privée, Galileo Galilei, en banlieue de Tunis, qui offre le cursus scolaire que nous, on apprend au Nouveau-Brunswick au Canada. Donc, les étudiants, les élèves de cette école-là apprennent exactement qu'est-ce que nous, Nouveau-Brunswick, on offre dans nos écoles. Donc, cet apport-là, on veut offrir notre éducation aux Tunisiens, mais également, possiblement, accueillir des Tunisiens, des étudiants dans nos institutions postsecondaires de courte ou de longue durée pour justement venir faire les études chez nous.
Il y a donc une coopération, notamment éducative, entre le Nouveau-Brunswick et la Tunisie.
Oui, une coopération qui a... Ce projet-là a commencé là, il y a quelques années, mais vraiment, là, le lancement a été fait en présence de notre ministre, de notre chef de délégation, notre ministre de la francophonie, le ministre Savoie. Ils étaient là avec une délégation, justement. Donc, il y a cet apport-là. Fait qu'avec la Tunisie, puis au niveau culturel également, on a organisé avec la Société nationale de l'Acadie pour la promotion des artistes acadiens et tunisiens l'année dernière une table ronde virtuelle qui a eu lieu en marge du sommet de Djerba, mais qu'on va faire des suivis justement au niveau culturel pour permettre des échanges culturels aussi entre la Tunisie et l'Acadie ou le Nouveau-Brunswick.
Et il est important de porter un regard juste sur les différentes jeunesses, sur les jeunesses de l'ensemble des pays francophones, des pays et régions francophones?
Oui, c'est une importance capitale. On continue d'avancer, on continue de faire la promotion de la francophonie. C'est à part là de la jeunesse, il faut apprendre à notre jeunesse. C'est quoi la francophonie? Qu'on est un des acteurs de la francophonie parmi tant d'autres, mais qu'on existe aussi. Puis comment l'importance de la langue française, de continuer à faire cette promotion de langue française-là également, que ce soit chez nous ou ici, puis de continuer à le transmettre de génération en génération pour s'assurer que la francophonie internationale reste, perdure, puis soit plus prolifique, on va dire comme ça.
Yannick Mainville, il était délégué du Canada à Nouveau-Brunswick lors du sommet international de la francophonie à Djerba en novembre dernier. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Très bonne suite de programme et un très grand merci pour votre fidélité.